Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Nicolas Bourriaud, qui publie Radicant pour une esthétique de la globalisation chez De Noël. Regarder le monde à travers cet outil optique qu'est l'art, afin d'esquisser une critique d'art du monde dans laquelle les œuvres dialoguent avec le contexte où elles sont produites. Vous êtes critique d'art, Nicolas Bourriaud, écrivain, on va le voir, commissaire d'exposition. Vous avez aussi tout un parcours institutionnel. Vous avez dirigé le Palais de Tokyo à ses débuts, en 2000, pendant 6 ans, jusqu'en 2006. Ensuite, vous avez été conservateur à Londres, à la Tate Britain. Et aujourd'hui, depuis peu de temps, depuis un coup de téléphone qui vous a été donné le jour de Noël, vous dirigez l'inspection de la direction de la création artistique, qui est l'une des trois grandes directions du ministère de la Culture. Ça veut dire que vous passez votre temps dans les théâtres, dans les musées, pour voir si tout fonctionne correctement.
Tout à fait. Écoutez, ça faisait 4 ans en fait que j'étais en France que par intermittence. Donc ça me permet de retrouver ce pays en étant un petit peu au cœur des choses. Et d'une manière assez prenante, on peut dire ça, ouais.
Et vous avez le sentiment que les choses, ça fonctionne à peu près bien?
Bah écoutez, c'est toujours difficile de faire des constats comme ça d'ensemble. Je suis assez content de revenir à Paris, en fait, après 3 ans à Londres, et une année et 4 ans à l'étranger en règle générale. J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui se passent. Et que de toute manière, bah, la France et Paris en particulier me semblent beaucoup plus, disons, connectées, je veux qu'elles ne l'étaient il y a encore une dizaine d'années. Et que aujourd'hui, de toute manière, il n'y a plus de centre artistique. On a des points dans des réseaux. C'est plutôt comme ça que les choses s'organisent aujourd'hui.
Pas de crise de l'invention, alors, mais peut-être une crise des moyens pour réaliser tous les projets qu'on peut aujourd'hui avoir.
Oui, ça, bien sûr. Je crois que c'est de toute manière, enfin, hélas, avec la crise économique qui a frappé l'Angleterre, d'ailleurs, encore plus cruellement et plus fortement, je pense, que la France. J'ai vécu en fait en direct, en fait, à l'automne 2008. Et c'est marrant parce que ça fournissait presque une sorte de conclusion en fait au travail que j'étais en train de mener à ce moment-là. Parce que pour moi, en fait, la postmodernité en fait a vraiment commencé en 73. Je donne une sorte de date symbolique en fait, et avec le choc pétrolier, c'est-à-dire le moment en fait où l'économie mondiale se réorganise vers la financiarisation, vers une sorte d'éloge de l'immatériel permanent. Pour moi, c'est ce qui caractérise l'époque postmoderne. Et d'une certaine manière, l'effondrement boursier de 2008 et la crise des subprimes a vraiment créé pour moi une sorte de coda en fait à cette époque-là. Et donc, d'une certaine manière, le livre que je finissais d'écrire exactement à ce moment-là, concluait dans la réalité également.
Donc impossible, on le voit bien en vous écoutant, de dissocier l'actualité esthétique, artistique de la vie économique.
de la vie tout court même, en fait, parce que l'économique n'est qu'un aspect, en fait, parmi d'autres. C'est vrai que c'est un aspect important pour moi, les modes de production. Le mode de production du social, je veux dire, sont absolument indissociables en fait de la création artistique. J'ai du mal à imaginer un univers de forme qui serait totalement détaché en fait du bouillonnement vital en fait et social. Il n'y a pas un intérieur et un extérieur. Pour moi, c'est vraiment c'est un ruban de Möbius, si vous voulez.
Alors, critique d'art, commissaire d'exposition, institutionnel, Nicolas Bourriaud est également écrivain. Vous êtes occupé même d'une revue pendant un moment qui a eu son heure de gloire, on peut le dire, hein, la oui. revue Perpendiculaire.
Tout à fait.
Oui. Le problème, c'est que les éditeurs ne sont pas toujours à la hauteur des projets de revue qu'on peut avoir.
Oui, alors, en l'occurrence, effectivement, parce que c'est une aventure assez très longue, en fait, parce que ça a commencé avec la création d'un groupe.
C'est en 95,
la Société Perpendiculaire, même encore 10 ans avant. En 85, avec Jean-Yves Jouannet, Christophe Kim, Christophe Duchâtelet, Laurent Quintraud, qui a fini en fait par créer une revue qui s'appelait la Revue Perpendiculaire, avec Michel Houellebecq et Jacques-François Marchandise. Et en 98, effectivement, le fait qu'on ait, on a, en fait, au moment de l'apparition des Particules élémentaires de Houellebecq, qu'on trouvait un très 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 bon livre, mais qui contenait en tout cas certaines opinions, on va dire, qui nous semblaient assez douteuses. On a déclenché avec Michel une discussion qui s'est avérée extrêmement longue, qu'on a publié dans le numéro suivant, qui fut le dernier, puisqu'en fait on concluait qu'il n'était plus possible de travailler ensemble parce qu'il y avait trop de divergences politiques en fait, entre nous, des divergences philosophiques profondes, et non pas littéraires, ce que je tiens absolument à souligner ça. Bon, on a été, disons, les Cassandres sur de cette histoire. Il se trouve que, bon, peu de temps après, je crois que ce qu'on disait à ce moment-là s'est avéré, en fait, s'est révélé sur la voie publique, en fait, on peut dire ça comme ça. Et Flammarion, en fait, a tout simplement suspendu, en fait, la revue et on s'est retrouvé éjecté, en fait, de la maison d'édition. Mmh.
Voilà. Donc, Perpendiculaire, ça s'est terminé en 1999. Mais je crois qu'en 2008, vous avez fondé ou cofondé une autre revue qui s'intitule Stream.
Oui, tout à fait. C'est une sorte de... Bon, c'était plutôt une sorte de one-shot, comme on dit. Il y a des moments où j'arrive plus à parler français. Avec l'architecte Philippe Cambaretta. En fait, c'est un projet assez intéressant. Ça me permettait aussi de... J'aime bien les connexions, en fait. C'est toujours intéressant de confronter son savoir à celui d'un autre et confronter, effectivement, l'univers que j'apportais. Il y a d'ailleurs... le premier numéro qui est sorti était vraiment sur le nomadisme. C'est des thèmes assez intéressants si on les applique
on
à l'architecture.
On retrouve dans Radicant. Hein.
Absolument, oui.
Bon, alors, il y a les livres aussi, hein, parce que vous en avez publié un certain nombre. Des essais, par exemple Esthétique relationnelle, qui avait été publié par les Presses du Réel en 1998, ou Forme de vie, l'art moderne et l'invention de soi, chez De Noël, il y a 10 ans, Post-production aux Presses du Réel en 2002. Celui qui paraît aujourd'hui, Radicant, porte en sous-titre Pour une esthétique de la globalisation. C'est un livre qui ne s'est pas fait dans un bureau parisien ou même londonien. Il a été rédigé aux quatre coins du monde, on peut le dire.
Oui, non, c'est vrai que j'insiste beaucoup sur le fait que la théorie, ça fait partie de la singularité de ma position. En fait, la théorie, pour moi, n'est pas séparable en fait, de l'expérience. Je suis un commissaire d'exposition qui écrit, devient davantage qu'un théoricien ou qu'un philosophe qui essaierait de plaquer des concepts sur une réalité vivante. C'est plutôt l'inverse qui m'intéresse, c'est de déduire de cette réalité, de déduire des ateliers une théorie. Et une théorie qui fonctionne comme une manière d'essayer de comprendre en fait, ce qui se passe à un moment donné dans le monde de l'art.
Donc pas de point de vue qu'on pourrait dire péjorativement provincial, hein, puisque vous êtes aussi bien à Venise, à Kiev, à Madrid, à La Havane, à New York, à Moscou, à Turin,
oui,
et dans bien d'autres villes encore. Dans des villes plutôt que dans des pays.
Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je précise très tôt dans le livre. Je suis davantage attaché à la situation urbaine, d'une certaine manière. Une un pays, si vous voulez, c'est toujours une entité un petit peu plus ou moins fantaisiste ou plus ou moins artificielle, d'une certaine manière. Il faut, pour la faire tenir, un bloc idéologique, culturel, identitaire, et on va y venir, assez fort. Une ville, ça se crée tout seul, d'une certaine manière. Genre, c'est la juxtaposition de ses habitants, de ses, leur mode de vie, de des architectures, etc. Donc c'est une réalité beaucoup plus vivante, d'une certaine manière.
Ça génère des modes de vie.
Oui,
ville,
absolument.
Hein. Et ce sont les modes de vie ici qui sont à la source des réflexions que vous proposez.
Je crois que de la même manière que je conçois mal de parler de l'art sans me référer à l'économie, à la politique et à la société en général, je crois que c'est effectivement dans l'évolution des modes de vie et la manière dont les êtres humains s'emparent des nouveaux outils qui sont à leur portée, qu'on peut percevoir le mieux en fait, pourquoi l'art est en train de changer, dans quelle direction il va. C'est effectivement toujours le mode de vie qui est l'origine même des choses.
Et le nomadisme, pour revenir à lui, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Hein. Ici, la réflexion théorique que vous inventez naît de ce nomadisme que vous avez pratiqué pendant toutes ces années.
Oui, pendant 4 ans, en fait, depuis 2005, on peut, plus ou moins. Même un petit peu avant, j'ai l'impression d'avoir été totalement hors sol, d'une certaine manière. C'est-à-dire de ne pas jamais avoir passé plus de 15 jours dans un même endroit, voire un même pays, en fait. Et ça finit par induire un mode de pensée, une approche des choses qui est très différente. D'une certaine manière, j'ai essayé de devenir une sorte de pilote d'essai de ma propre, pour une expérience spécifique qui aboutit à ce livre-là. Comment est-ce qu'on voit les choses quand on est dans une espèce d'orbite, quand on doit remettre en question les bases même de son identité pour essayer d'avancer.
Vous voyez, aujourd'hui, vous dites pilote d'essai. Autrefois, on aurait sans doute dit marin, avec une théorie dans chaque port.
Voilà, c'est un peu ça.
Ouais. Ici, il y a trois mots qui sont les mots clés à partir desquels vous dites avoir organisé votre essai. Multiculturalisme, postmoderne et globalisation.
Oui. Ce sont trois mots massifs, on peut dire ça comme ça. C'est trois mots à la mode, c'est trois mots qui sont dans la bouche de tout un chacun aujourd'hui, et que j'ai essayé de questionner, de désintégrer d'une certaine manière, et pour essayer d'approcher la réalité qu'ils désignent d'une autre manière. Multiculturalisme, par exemple, c'est un terme qu'on utilise, à mon sens, un petit peu trop souvent pour qualifier peut-être des choses qui n'en relèvent pas. Le multiculturel, en tout cas tel que le définissent les théoriciens anglo-saxons notamment, pour moi c'est une sorte de juxtaposition de ghetto en fait. Je crois plutôt à l'interculturel qu'au multiculturel. Je crois que c'est dans le croisement, dans la fécondation, la pollinisation croisée, comme on dit en anglais, que se produisent les phénomènes les plus intéressants de la vie culturelle contemporaine.
Mais est-ce que ces trois concepts ne se croisent pas justement dans un autre qui serait celui de modernité ?
Moi, je dirais post-modernité à ce sujet-là. Quand on parle de la réalité que désignent ces trois mots, le multiculturel et la globalisation, en tout cas, on aboutit d'une certaine manière au post-moderne. Post-moderne comme une sorte de modernité offshore, si vous voulez. C'est une sorte de dérive. C'est aussi un détachement hors de la réalité concrète de la géographie comme de l'histoire,
d'une certaine manière. Sauf qu'à vous lire, j'ai eu l'impression que le poste avait du plomb dans l'aile et qu'aujourd'hui, il fallait plutôt parler d'altère-modernité.
Oui. Là encore, ça se réfère bien entendu à une situation politique. Je pense que l'usage totalement abusif du mot poste depuis 30 ans, je pense que ça mérite d'être questionné. On est aujourd'hui dans le post-féminisme, dans le post-politique, la post-histoire, le post-tout. Je n'ai pas l'impression de faire de la post-radio avec vous, d'avoir un post-discours, si vous voulez. Ça devient une posture complètement, et je fais exprès de le dire, totalement ridicule. Je pense que se vouloir se cantonner dans une espèce de réflexe masochiste, dans une sorte de banlieue perpétuelle de l'histoire, comme si, bon voilà, l'histoire c'est les autres qui l'ont fait, la modernité c'était avant. On est après, on arrive toujours après. Et ça c'est quelque chose totalement déprimant au sens littéral du terme pour la pensée. Je pense qu'il faut arrêter de se déprimer.
Alors je rappelle, Nicolas Bourriaud, que votre livre s'intitule « Radicant ». Il est sous-titré « Pour une esthétique de la globalisation » et publié chez De Noël. « Radicant », »,« Radicant », voilà un mot qui fait son apparition hein, dans le vocabulaire. Et le livre se propose justement de poser les bases de ce que vous appelez un art radicant. Alors c'est quoi un art radicant ?
En fait, radicant, c'est un terme qui existe, qui est dans le dictionnaire, dans toutes les langues pour le moment dans lesquelles le livre est paru, et qui signifie... C'est le mot qui vient juste après radical, en général. Et c'est comme ça que je l'ai trouvé. C'est un mot qui signifie, qui fait pousser ses racines au fur et à mesure qu'il avance. Contrairement à radical, qui signifie littéralement qui appartient à la racine. Et cette distinction, cette opposition entre radical et radicant structure l'ensemble du livre. Mmh.
Pour moi, c'est-à-dire entre modernité et altermodernité.
D'une certaine manière, oui. Le XXe siècle, ça a été le siècle de la radicalité. J'espère, j'appelle de mes voeux un XXIe siècle qui soit radicant. C'est-à-dire qui ne se focalise pas, qui ne soit pas obsédé, comme le XXe siècle le fut, par la question de l'identité et de l'origine.
Donc, plus d'éloges de la racine, mais il s'agit maintenant de mettre en route, comme vous l'écrivez, ces racines dans des contextes et des formats hétérogènes.
Oui, c'est moins une critique de la racine en tant que telle, qu'une critique de la manière dont ces racines se situent dans un sol. Si vous prenez un exemple très trivial, si vous voulez, le terroir n'est jamais aussi bien exprimé que par un grand vin, par exemple. Et un grand vin, c'est quelque chose qu'on emporte avec soi. C'est pas forcément un ancrage définitif dans un sol. Ben, d'une certaine manière, c'est la différence entre radicant et radical.
C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de se poser la question de la provenance.
Mais de la destination.
Voilà. Ouais. Où je vais. Pas d'où je viens, mais où je vais. C'est la question moderne.
C'est une question moderne par excellence. Je crois que c'est en cela que je reprends à mon compte le terme de modernité. J'essaye de lui apposer le préfixe alter pour la distinguer de celle du XXe siècle. Mais en même temps, la modernité se caractérise, à mon sens, par cette question de la destination. Par l'arrachement à la tradition, l'arrachement au sol et le départ vers une destination encore inconnue. Il y a un côté aventurier dans la modernité, à l'opposé en fait du postmoderne, qui se préoccupe en permanence de l'origine des discours ou des personnes dont elle traite. La question postmoderne, c'est d'où venez-vous ? Quelle est votre identité ? Et à partir de cette identité, je vais en déduire, un discours critique.
Donc le radicant, c'est quelqu'un qui va se mettre en route.
Oui, tout à fait, oui. À la toute fin du livre, je cite d'ailleurs un passage de Peter Sloterdijk, qui écrivait à propos de Derrida, dans son hommage à Derrida, qui décrivait l'exode, en fait, hors d'Égypte. Il disait que les Juifs, à ce moment-là, avaient abandonné le lourd appareil théocratique de l'Égypte ancienne. Ils s'étaient engagés dans le désert. Mais pour moi, c'est le premier geste moderne, ça. C'est la modernité par excellence, l'exode.
Donc le radicant, c'est un voyageur sans bagages et sans billets de retour.
Il peut accumuler des bagages, il peut se replanter quelque part. Il ne s'agit pas de nier en fait, la question de l'ancrage, mais il s'agit de le relativiser dans le parcours individuel et collectif en fait, de l'humanité. La question de l'identité, c'est aujourd'hui une question qui obsède absolument tout le monde et qui, à mon avis, est une fausse question. L'identité, c'est une construction. L'identité, c'est du constructivisme. On la construit petit à petit, à condition qu'on accepte c'est tout simplement l'idée qu'il ne s'agit pas de s'identifier à une certaine image ou une certaine définition, c'est-à-dire s'identifier à des masses, en fait, qui sont soit religieuses, politiques ou autres, mais laisser venir, advenir l'identité.
Donc il ne s'agit pas de s'identifier à, mais il s'agit de s'acclimater à des contextes divers.
Absolument, la question d'acclimatation me semble plus juste, d'une certaine manière. Acclimatation à un sol, à un groupe, à toute forme de réalité qu'on peut rencontrer.
Et il en résulte un style de vie.
Et un style de vie qui est, à mon sens, en perpétuelle évolution.
De pensée.
Oui. Je crois que le principe du voyage, c'est celui-ci. C'est le fait de se transformer en permanence, en se frottant comme un silex, en fait, à des réalités différentes.
Mais le radicant se présente comme une pensée, je crois que vous le dites textuellement, une pensée de la traduction.
Oui, qui va, bien entendu, c'est un thème connexe à celui du voyage. Il faut toujours se traduire dans la langue d'accueil, se traduire dans la langue de l'autre. Et ce qui m'a intéressé dans le livre aussi, c'est de relever toutes les figures de la traduction qui existent aujourd'hui dans l'art contemporain. Que ce soit par exemple un artiste qui traduise une ligne musicale dans une forme solide, ou l'inverse, ou qui traduit du visuel dans du discours, ou l'inverse, etc. Il y a une véritable iconographie de la traduction aujourd'hui dans l'art contemporain. Et c'est ça qui m'a alerté d'une certaine manière sur cette question.
Traduction dans les deux sens.
Oui.
Traduction de soi dans un milieu.
Oui. D'une certaine manière, la traduction laisse le texte vivant, quel qu'il soit. On n'est jamais, il y a toujours une part d'erreur dans une traduction. On n'est jamais, il n'y a jamais de traduction totalement fidèle ou qui restitue absolument l'original. Il y a toujours un reste. Ben, ce reste, d'une certaine manière, c'est quelque chose auquel je suis très attaché. C'est une part vivante, le reste. C'est de dire, voilà, on sera jamais, en fait, à 100%. On n'arrivera jamais à restituer totalement la réalité. On n'arrivera jamais à exprimer exactement ce qu'on veut. C'est ce qui continue à faire avancer la machine. C'est une sorte d'objet petit A qui se trouve absolument partout, en fait, et qui est l'essence même de la traduction.
Et qui affirme le divers.
Et qui affirme le divers, qui est le sentiment du divers, en fait.
D'où l'importance d'un écrivain qui a une très belle place dans votre livre radicant, Nicolas Bourriaud, qui est Victor Segalen.
Ah, Victor Segalen.
Dont on ne parle pas tous les jours.
Pour moi, c'est un auteur extrêmement important, notamment à travers son essai sur l'exotisme, qui est un livre posthume, en fait, qu'on a retrouvé dans les carnets de Segalen après sa mort en 1918. Et Segalen, à la fois comme écrivain et comme théoricien, pardon, a pour moi un rôle absolument capital. C'est le premier qui, justement, après avoir vraiment produit une critique de la colonisation, je dirais extrêmement virulente, en fait, dans Essai sur l'exotisme, et à l'époque, je ne c'était pas si fréquent, qui a vraiment théorisé le divers. Théorisé, qu'est-ce que c'est que l'exotisme? Alors, il commence par dire que ça n'a rien à voir avec ce qui était en vogue à l'époque, les Pierre Loti, Claude Farrère, etc., etc. C'est pas du tout ça pour lui. C'est la rencontre du divers. Et cette rencontre-là, il en dresse une sorte de typologie tout au long du livre, en expliquant que le plus grand danger que court l'humanité, et on est au début du XXe siècle, c'est ce qu'il appelle l'entropie, c'est-à-dire la dissolution du divers dans une sorte de, je cite, « pâte tiède et visqueuse » que va devenir le monde si on le standardise, si on l'uniformise. Et la colonisation, pour lui, c'était le signe avant-coureur de cette grande uniformisation à laquelle on est confronté aujourd'hui sous le nom de globalisation, en fait.
Et à laquelle on peut opposer ce parti pris nomade dont vous parliez tout à l'heure.
D'autant plus que Segalen ne pensait pas qu'il fallait se fondre dans l'autre. D'ailleurs, pour lui, il n'y a pas de grand autre générique. Il y a de l'ailleurs. Et l'ailleurs, on y va ou pas. Sur ces traits différents. Il n'y a pas d'ailleurs générique, il y a des ailleurs, je veux dire, il y a des points précis, il y a des localités particulières. Donc on est dans une sorte de nominalisme permanent avec Segalen. Tous les points sont singuliers à la surface de la planète. Et il faut apprendre justement à entretenir avec eux une relation qui est une relation de traduction, comme on le disait tout à l'heure. C'est ne pas adopter le point de vue de l'autre, mais être capable de rentrer dans sa longueur d'onde, en fait.
Alors, comment cela va-t-il se traduire pour les artistes contemporains, c'est-à-dire ceux qui travaillent en 2010, aujourd'hui ?
En fait, d'une certaine manière, avant tout, je dirais que c'est par l'invention d'une forme spécifique, d'un type, d'une famille de formes, en fait, que j'ai essayé de repérer dans le livre, qui est ce qu'on pourrait appeler une forme dynamique, d'une certaine manière. De plus en plus, je constate, je vois, genre multiples expositions, les visites d'ateliers que j'ai pu faire, des artistes qui abordent l'espace d'une manière dynamique, qui construisent des œuvres plus forcément dans l'ici et maintenant en fait d'une surface ou d'un volume, mais qui éclatent en fait les formes dans le temps, par exemple, et qui peuvent concevoir des projets extrêmement complexes à la fois dans le temps et dans l'espace, dans des lieux différents, dans des temps différents. Et ça, c'est une forme qui me paraissait spécifique du début du XXIe siècle.
C'est-à-dire dans l'histoire et dans la géographie en même temps ?
Dans l'histoire et dans la géographie en même temps, et en confondant parfois les qualités respectives de ces deux entités. L'espace et le temps échangent leurs propriétés. Ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre aussi, c'est que l'artiste, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui considèrent le temps comme le dernier continent à explorer. Effectivement, depuis le début de ce siècle, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le moindre centimètre carré de la planète est connu. Les dernières taches blanches sur la carte, c'était Bornéo, en fait. Il y avait au centre de Bornéo deux ou trois endroits qui étaient encore absolument irrepérés. Bon, avec les satellites, maintenant, c'est chose faite. Donc, nous vivons, nous sommes les habitants d'une civilisation qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il n'y a plus de terra incognita. Voilà. La moindre parcelle de cette planète est connue. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je pense que les artistes ont tendance à aller dans l'histoire comme on allait jadis à l'exploration. Et que l'obsession sur de nombre d'artistes aujourd'hui pour le passé, pour l'histoire, se manifeste de mille et une manières. D'ailleurs, en littérature, l'intérêt que l'on porte aujourd'hui à un auteur que je considère comme majeur, W.G. Sebald, fait partie de cette... ou Claudio Magris, même, on pourrait citer. Ça fait partie vraiment de cette nouvelle configuration mentale qui confond l'histoire et la géographie.
Ouais. Sans parler de Boltanski, par exemple, pour rester dans l'actualité. Donc, l'histoire, la géographie, l'espace, le temps, il y a peut-être un autre couple aujourd'hui qui est très important, c'est celui que forment le virtuel et le réel.
Oui, absolument. Alors ça, c'est très complexe comme question, parce que on a tendance à penser que le virtuel appartiendrait en fait au domaine de l'écran ou de l'ordinateur. Je ne crois pas, en fait, effectivement. D'une certaine manière, le grand penseur du virtuel, pour moi, demeure Baudrillard avec les stratégies fatales dans les années 80. Il a vraiment posé les jalons de ce que pouvait être une pensée du virtuel et du simulacre. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont l'ordinateur, l'écran en général, modifie aussi notre approche des choses. Et chez les artistes, par exemple, on voit très bien comment l'écran d'ordinateur aujourd'hui est devenu un modèle formel. Je veux dire, avec son lien hypertexte, avec ses pop-ups, je veux dire, si vous regardez, il y a beaucoup de peintures contemporaines, je veux dire, en fait, qui se présentent comme des surfaces à laquelle s'accrochent différents petits sous-écrans, en fait. C'est une évolution assez massive, je trouve, aujourd'hui. C'est la toile comme écran, d'une certaine manière.
Et alors, quelles conséquences sur... parce que c'est aussi un sujet que vous abordez dans le livre, Radicant, Nicolas Bourriaud, sur le rôle politique de l'art contemporain.
Alors ça, effectivement, c'est un thème qui est sous-jacent, en fait, est présent, en fait, du début à la fin du livre. Il y aurait beaucoup de manières en fait de l'aborder. Le premier, je crois que j'essaye de me livrer à travers ce livre à une critique de la notion d'identité elle-même. Ça, c'est un aspect pour ma politique fondamental. Je pense que je cite par exemple un passage du carnet de la drôle de guerre de Jean-Paul Sartre qui raconte comment en 1940 un village alsacien entier a été transporté dans le Limousin. Et comment, je veux dire, une fois privé de l'environnement architectural, des rituels en fait qui constituait, qui donnait sa consistance à cette communauté. Je veux dire, ce groupe d'Alsaciens, ce village d'Alsaciens perdu dans le Limousin, a commencé à totalement perdre tous ses repères. Alors ce que je veux, il ne faut pas prendre ça comme un refus ou une critique de la notion de déplacement, mais au contraire, mais voir qu'on a tout intérêt toujours à refonder le groupe, non plus sur du passé, non plus sur des coutumes passées, non plus en fonction d'une architecture ou d'un environnement qui n'existe plus, mais il faut le refonder en permanence. Je veux dire, les racines, elles sont portatives. Et cette anecdote, en fait, montre ça assez bien. Mmh. Je pense que la question de l'identité, aujourd'hui, perturbe complètement sur notre rapport en fait aux politiques. C'est une notion qui apporte beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en résout. Ouais.
Voilà. Il y a la question du réel aussi, de l'affrontement avec le réel, qui est aussi le rôle de l'art aujourd'hui.
Bien sûr, tout à fait. Ça, ce qui rejoint d'ailleurs cette exigence qui consiste à ne jamais perdre de vue en fait l'environnement quand on parle d'art. Je veux dire, mais que ce qu'il s'agisse de Giacometti en fait qui essaie de dessiner une pomme, je pense que les enjeux sont toujours les mêmes, hein, quels que soient les moyens en fait qu'on emploie. Il y a toujours effectivement ce rapport, ce combat presque, je veux dire, entre un regard et un environnement. Mmh. Mais il s'exprime de 100 000 manières.
Je crois que vous parlez d'écran radar. Ouais. Propos de du rôle de l'art.
D'une certaine manière, ouais. L'artiste est une sorte de sismographe ou d'écran radar. Oui. Il y a très souvent en fait, des choses qui sont des formes qui sont de l'ordre du prémonitoire ou de l'avant-coureur en fait, dans les œuvres d'art. Et il ne s'agit pas là d'une quelconque mystique, mais d'un constat. C'est l'extrême sensibilité en fait, à ce qui arrive, à ce qui tombe autour de nous, fait que l'artiste peut effectivement avoir un temps d'avance en fait, sur les choses. Et je crois que c'est un observatoire absolument fascinant, et notamment quand il s'agit de la globalisation. Mmh. Aujourd'hui, l'art est totalement globalisé, et on peut voir à travers les formes que les artistes produisent, ce que pourrait devenir, ce que pourrait être une culture véritablement globalisée, ce que j'appelle l'altermoderne.
Oui, et ces formes ne sont plus la terminaison d'un processus de création, mais une interface.
Oui, quand je parlais de formes dynamiques tout à l'heure, il s'agit aussi un petit peu de ça. D'une certaine manière, j'ai toujours pensé qu'une œuvre d'art, c'était comme une photo de film que vous allez voir quand vous allez au cinéma et que vous allez vous rentrez dans le hall, en fait, vous voyez toujours les photos du film. En fait, ces photos, elles peuvent avoir une beauté intrinsèque. Elles peuvent être extrêmement intéressantes, séduisantes, fortes même parfois. N'empêche que c'est le film, malgré tout, qui compte. Je pense que dans mon approche de l'art, il y a toujours cette idée que l'œuvre d'art, tableau, sculpture, ou installation, ou ce que vous voulez, se réfère malgré tout, est un point en fait dans une ligne. Mmh. Et c'est cette ligne que j'essaie de restituer, de voir où elle va. En fait.
Dans le livre, vous dépoussiérez un peu nos concepts habituels. Vous parlez moins volontiers d'œuvres, par exemple, que de post-production.
Oui.
Et moins volontiers d'artistes, peut-être, que de sémionautes.
Alors oui, dans ces deux termes, en fait, effectivement, moi j'aime bien inventer des termes parce que c'est parfois ils sont beaucoup plus un mot en fait inventé ou qu'on va chercher en fait dans un autre lexique permet de faire davantage comprendre ce qu'on veut dire. Post-production, qui était le titre de mon livre précédent, en fait désigne l'ensemble des opérations qu'on fait subir à une image enregistrée, en fait, ou un son enregistré, peu importe. Il y a énormément d'artistes qui aujourd'hui travaillent à partir de choses d'ores et déjà existantes. Effectivement, dans la culture en général, le DJ par exemple, ou le programmateur, etc., ce sont des gens qui travaillent sur des choses d'ores et déjà existantes. C'est une constante, en fait, dans la société contemporaine, et quelque chose qui s'est infiltré aussi largement, en fait, dans l'art. Je ne mets pas de hiérarchie. Voilà, il y a des artistes qui sont absolument fascinant et qui travaille à partir de choses qui existent déjà. D'autres, je veux dire, qui sont toujours confrontés à la page blanche. Toutes ces choses-là coexistent, en fait, dans un même espace. Mmh. Et quant aux sémionautes, c'est celui qui invente des parcours à l'intérieur d'un paysage de signes. Je veux dire, c'est l'artiste qui relie un point à un autre, une forme à une autre, pour former une constellation. Et cette constellation, pour moi, c'est l'œuvre.
Qui reflète le mode de production de la sphère économique,
oui,
comme vous le disiez au tout début.
Absolument.
Alors, il y a encore un concept dont nous n'avons pas parlé et qui est en première ligne dans votre essai, c'est celui de précarité,
oui,
qui apparaît dans la deuxième partie. Vous expliquez que la précarité imprègne désormais la totalité de l'esthétique contemporaine.
Et si seulement de l'esthétique, c'est avant tout un thème de civilisation, je veux dire, très clairement. Alors et ensuite, il y a la précarité, je veux dire, subie, ce que l'artiste peut faire à l'intérieur de la culture à partir de cette notion de précarité, à partir de cette condition précaire. Il y a d'une part le statut incertain de l'œuvre d'art aujourd'hui. On se pose toujours la question, en voyant arriver un nouvel objet, est-ce que c'est de l'art ou pas, par exemple. La question se pose moins, finalement, si on se dit, voilà, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'est-ce que cet objet génère, qu'est-ce que ça produit, est-ce que ça va nous amener à voir la réalité différemment, est-ce que ça va nous permettre de penser à d'autres objets de la même famille d'une autre manière. Le statut de l'œuvre d'art est incertain. Et précaire, ça veut dire révocable à tout moment. Et donc, c'est exactement le cas de l'œuvre d'art, en fait, si on réfléchit. C'est une proposition, qui est révocable à tout moment. Et qui renvoie à une précarité, bien entendu, la civilisationnelle. C'est-à-dire le fait que des sentiments, les situations, les objets sont durent de moins longtemps, en fait. Ça, on trouvera des pages formidables là-dessus chez Zygmunt Bauman, par exemple. La précarité produit aussi une esthétique.
Alors évidemment, dans un livre comme celui-ci, Nicolas Bourriaud, il y a des référents. Bon, j'aurais aimé qu'on ait le temps d'en parler. Ça ne sera pas possible ce soir. Il y en a deux que vous avez cités, Ségalène et Sebald. Mais il y en a deux autres qui apparaissent là et qui cadrent bien la réflexion. C'est d'une part Benjamin.
Oui.
Et d'autre part, Serge Danet.
Absolument. Alors, commençons par Serge Danet. Peut-être que j'aurai peut-être davantage le temps, parce que Benjamin, c'est un continent qui est énorme. Serge Danet, justement, je le cite en commentant, une phrase de Ségalène, en fait. L'idée centrale dans l'esthétique de Serge Danet, qui est pour moi le plus grand critique de cinéma de la fin du XXe siècle, qui est de jamais se mettre à la place des autres. Et une image ne doit pas remplacer, en fait, l'image de l'autre. Juste un exemple, en fait, Danet, c'est quelqu'un qui achetait des cartes postales, en fait, des lieux qu'il visitait, plutôt que de se livrer à cet acte de prédation, comme il le disait, qui est la photographie. Il préfère avoir l'image que les autres ont de leur propre territoire plutôt que de prendre, lui, une image de leur territoire. C'est aussi une morale, une éthique de l'image.
Radicant, pour une esthétique de la globalisation, l'essai de Nicolas Bourriaud est publié chez De Noël. Du jour au lendemain, Benjamin Vignal, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.
Thank you.